C'est en 1006, en périphérie d'une presqu'île du site de Coltières, à l'extrémité sud du lac, que de nouveau, d'importants abattages d'arbres ont lieu. Cette activité signale efficacement la seconde période d'installation humaine sur les bords du lac depuis la fin du néolithique. Trois zones d'habitation sont créées en même temps, Coltières, Ars et les Grands Roseaux.
Sur le site de Coltières, les derniers abattages connus remontent par ailleurs à 1040, ce qui amène les scientifiques à conclure que la période d'occupation de cet habitat a duré moins de 40 ans.
Durant ce laps de temps, une communauté d'hommes, de femmes et d'enfants, constituée d'environ 300 individus, s'y est installée.
Mais qui sont-ils et d'où viennent-ils? On pense qu'un puissant seigneur, peut-être le roi de Bourgogne, leur a commandé de coloniser cette zone afin sans doute de développer une activité économique spécifique et d'occuper cette position stratégique.
Séduit par le climat et la configuration du site, il ne se doute pas que quelques dizaines d'années plus tard, de fortes pluies les contraindront, eux ou leurs descendants, à abandonner leurs habitations de Coltières, submergées par les eaux du lac.
Cette deuxième partie des collections vous invite à découvrir plus avant le quotidien de ces occupants, qui n'étaient certainement pas de simples et modestes villageois. Les deux fragments de treuil retrouvés sur le site de Coltières témoignent de la maîtrise des techniques de construction par les habitants du site. La pièce qui vous est présentée ici est d'ailleurs exceptionnelle, tant par ses dimensions que par son allure générale.
Remarquez notamment l'aspect parfaitement cylindrique de sa partie centrale, mais aussi les deux séries de trous de cheville qui permettaient l'enroulement d'un cordage.
Ces spécificités, de même que la cassure visible sur son axe central, ont permis aux archéologues de déterminer son usage. Il s'agirait en effet d'un tambour de treuil actionné par deux bras disposés en équerre.
Cette pièce était donc vraisemblablement liée à un engin de traction et de levage. Ce dernier servait probablement à tirer les rondins de bois nécessaires à l'édification des fondations des habitations. Ces dernières reposent sur un maillage de troncs superposés, permettant ainsi une meilleure isolation en séparant le plancher du sol humide.
L'ingénierie déployée ici permet justement de distinguer l'occupation médiévale de celle du néolithique. En effet, autour de l'an 1000, c'est la monumentalité et surtout le caractère fortifié du bâti qui saute aux yeux.
Situé sur une presqu'île, le site de Coltières est alors relié à la terre ferme par un ponton surélevé à l'aide de pieux. Une palissade en puissante planche de chêne d'environ 47 mètres par 24 mètres ceint le périmètre autour des trois habitations.
En dehors de ces fortifications se trouvent deux autres structures qui accueillent d'une part le chantier de charpenterie au nord et d'autre part un petit bâtiment abritant le bétail.
Enfin, au centre de la zone habitée, se trouve un bâtiment en bois à deux étages qui domine deux autres maisons. Sa salle principale est dotée d'une cheminée. À ce sujet, ne manquez pas de regarder la vidéo. Vous pourrez y découvrir les différentes interprétations possibles quant à l'élévation de ce bâtiment.
Le site de Coltières n'est donc pas un simple village ou hameau rural. Il s'agirait plutôt d'un habitat aristocratique, ce que tente à confirmer la richesse et le raffinement de l'artisanat qui vous sera présenté dans les prochaines vitrines.
Avec sa forme allongée, son aspect lisse et son excroissance terminale, ce bâton ressemble curieusement à un club de golf.
Mais vous vous en doutez bien, son usage autour de l'an 1000 est bien sûr tout autre.
En effet, il s'agit d'un bâton de porcher. Ce dernier l'utilise alors pour la glander, qui consiste à emmener ses porcs paître dans les forêts afin qu'ils se nourrissent des glands, des châtaignes et des faines des hêtres.
Il faut dire que l'élevage du porc revêt une importance considérable à Coltières, puisqu'il constitue 60% des restes d'animaux retrouvés sur le site.
À Coltières, les éleveurs font donc paître porcs, chèvres, moutons et bovins. Le site est propice à ce genre d'activité puisqu'il propose des paysages variés, que ce soit les prairies humides qui bordent le lac, les champs une fois la récolte ramassée ou encore la forêt.
En plus des animaux d'élevage destinés à la consommation, les habitants du site possèdent des chevaux, des ânes et des mulets destinés au transport des hommes et des marchandises, mais aussi aux activités guerrières.
Ces flotteurs de filets en attestent. Pour leurs besoins en protéines animales, les habitants de Coltières profitent aussi des eaux poissonneuses du lac.
En effet, la pêche est une ressource non négligeable lorsque d'autres types de provisions viennent à manquer. Les occupants se rabattent donc sur les nombreux poissons frayant dans ces eaux.
On pêche ainsi essentiellement des perches, du gardon, mais aussi des brochets et des truites. Grâce à la taille des vertèbres et aux écailles des restes retrouvés, les scientifiques ont pu déterminer que la pêche était surtout pratiquée au printemps, puis à l'automne.
Pour ce faire, on utilise alors des techniques variées. Retrouvés en grand nombre, plus de 200, les flotteurs indiquent qu'on pêche le plus souvent au filet et à la ligne.
En effet, la pêche au filet nécessite des flotteurs, ainsi que de lest sous forme de galets. Embarqués sur leurs pirogues, comme celles que vous pouvez voir non loin, les pêcheurs jettent ensuite les filets dans les eaux du lac.
La pêche à la ligne nécessite quant à elle des hameçons qui sont façonnés en fer. Enfin, la dernière méthode de pêche consiste à harponner le poisson dans les roseaux près du rivage à l'aide d'une foaine. Ce harpon, doté d'un long manche, permet d'assurer de grosses prises, telles que les brochets ou les anguilles. De toute évidence, cet objet en bois est un outil. Mais quelle est au juste son utilité?
Pour le savoir, il convient de l'observer plus avant. De forme rectangulaire, la pièce est creusée par une mortaise dont l'un des côtés est oblique. Ce dernier accueille un morceau de fer plat, doté d'un tranchant, calé grâce à une cheville et incurvé afin de créer une courbure à l'objet façonné.
Cet outil est donc un rabot, mais pas n'importe lequel. Il est dit à mouchette, ce qui signifie qu'il est alors utilisé pour confectionner des manches.
Un outil efficace dédié à la confection d'autres outils. Il ne fait aucun doute que les habitants de Coltières possèdent des compétences en menuiserie approfondies.
Ainsi, toutes sortes d'objets de la vie courante sont produites par les menuisiers du site, que ce soit des coffres, des selles, des manches de couteaux ou des haches.
Cette pièce en fer, d'une longueur de 12 cm, est une ébauche de javeline, c'est-à-dire d'une petite lance. Mais peut-être vous demandez-vous ce qu'est une ébauche ?
En métallurgie, une ébauche est la forme brute obtenue par la forge libre, c'est-à-dire en frappant manuellement un métal, préalablement chauffé, sur un support adéquat. D'un point de vue archéologique, la découverte d'une ébauche sur le site est primordiale, puisqu'elle atteste la fabrication d'armes.
Au total, 16 ébauches ont été retrouvées sur le site de Coltières. Par leur diversité, elles attestent du savoir-faire des forgerons du site, qui étaient également maréchaux ferrants.
Ces derniers travaillaient dans les forges, situées entre les habitations et le rivage. Leurs ateliers étaient protégés de la pluie par des hauts vents.
L'origine des minerais utilisés n'a pas pu être déterminée. Cependant, on sait que les forgerons produisaient tout type d'objets en fer.
Que ce soit du petit armement, comme cette javeline, mais aussi des fers à cheval ou bien des faucilles.
Si le nombre d'objets en fer mis au jour à Coltières fait du site un haut lieu de la forge dans la région, c'est surtout le nombre de couteaux retrouvés qui impressionne.
Rendez-vous compte, près de 450 lames ont été découvertes ici, ce qui dépasse de très loin les plus riches sites européens de la même époque. Il est donc tout à fait probable que cette production ait été dédiée à l'exportation, soulignant d'autant plus le caractère unique du site. Cette chaussure d'enfant, ainsi que son embauchoir, constitue un témoignage à la fois émouvant et précieux de la qualité de l'artisanat du cuir développé autour de l'an 1000 à Coltières.
Comme le montrent les restes retrouvés sur site, le travail du cuir est très varié. Avec ce matériau, les artisans produisent aussi bien des vêtements, des chaussures, mais aussi des fourreaux et des éléments de harnais.
Vous l'aurez compris, les chaussures sont toutes montantes jusqu'à la cheville et possèdent des pointes légèrement recourbées vers l'extérieur. Les systèmes de fermeture diffèrent d'une chaussure à l'autre. Certaines paires se ferment à l'aide de lanières passées à travers des fentes taillées dans la tige, tandis que d'autres utilisent des lacets.
La pointure de la plus petite chaussure d'enfant, du 17, correspond à celle d'un enfant âgé d'un an. Cela montre bien le niveau de confort des habitants qui pouvaient chausser un enfant apprenant tout juste à marcher.
La présence d'embauchoirs atteste du soin et de l'entretien apporté aux objets du quotidien. À l'époque, les embauchoirs sont utilisés comme forme pour la découpe des cuirs et leur assemblage.
Les céramiques qui vous sont présentées ici possèdent toutes un fond marqué. Cette expression désigne tout simplement le motif en relief, visible sur le fond de la poterie.
Comme vous l'aurez remarqué, les motifs les plus souvent rencontrés sont les croix et les clés. Si ces dessins sont facilement identifiables, leur rôle demeure cependant mystérieux.
Plusieurs hypothèses formulées par les archéologues entendent résoudre ce problème. La première avance qu'il s'agirait de marques de potiers destinées à identifier le producteur et la provenance de l'objet.
Une seconde hypothèse, plus fragile, renvoie à l'iconographie religieuse évoquée par ces croix. Les fonds marqués permettraient alors d'identifier les commanditaires de ces céramiques qui pourraient être des communautés religieuses des environs.
La présence de ces céramiques produites dans la région viennoise, d'un type tout à fait particulier, est également attestée dans d'autres sites du Dauphiné, du Lyonnais et du Forez.
Après l'effort, le réconfort. Bien sûr, les habitants de Coltières ne sont pas que des bourreaux de travail ou des artisans chevronnés. Ce sont aussi des hommes et des femmes qui profitent de leur temps libre pour se délasser, se divertir et jouer.
Ce jeu d'échecs le montre d'ailleurs merveilleusement. En l'observant de plus près, vous pourrez peut-être reconnaître les figures du roi, de la reine, du fou, mais aussi du cavalier et de la tour. À leur côté, les pièces plus petites sont de simples pions.
Toutes ces pièces, à l'exception de trois en os, ont été taillées dans du bois de noisetier, réputé tendre. Elles sont façonnées sur le modèle du jeu introduit par les Arabes, alors très répandu en Europe.
Le roi se différencie de la reine par un bouton surmontant son corps en demi-cône. Le fou, quant à lui, possède une tête sphérique, dotée de deux pointes vers l'avant, qui rappelle les défenses de l'éléphant.
Étrange ? Pas vraiment. Car dans le jeu d'échecs originel, provenant d'Inde, cette pièce est un éléphant. Lors de la diffusion du jeu dans le monde arabe, le nom de la pièce est traduit par « alfil ». En France, le terme est déformé en « alfol » pour devenir finalement « le fou que nous connaissons aujourd'hui », « fol » signifiant « fou » en vieux français.
Viennent enfin le cavalier, avec sa pointe unique vers l'avant, et la tour, reconnaissable à ses deux pointes opposées.
Ces jeux, que ce soit les échecs, le tric-trac ou les dés, semblent surtout destinés aux adultes, puisqu'aucun jouet pour enfants n'a été retrouvé sur le site. Surtout, chaque jeu semble lié à un statut social. Ainsi, le jeu d'échecs était conservé dans la maison principale, tandis que le jeu de dés et le tric-trac se trouvaient dans les habitats secondaires.
Au même titre que le jeu, la musique fait partie des activités de loisirs et de détente, comme en témoignent les flûtes en os ou en bois, les tambourins ou les vielles à cordes. À ce propos, souhaitez-vous écouter le son de ces instruments ? Oui ? Alors appuyez sur la touche verte et ouvrez grand vos oreilles. Thank you. clés qui vous sont présentées dans cette vitrine ont été forgées sur place. Elles actionnent différents types de mécanismes, eux-mêmes associés à des supports variés, que ce soit des portes, des coffres ou des coffrets.
Ce ne sont cependant pas les clés elles-mêmes qui nous permettent de déterminer ce qu'elles pouvaient ouvrir ou non, mais bien les moraillons, c'est-à-dire les systèmes de fermeture à languette solidaires des portes ou des coffres dans lesquels elles s'inséraient.
Autour de l'an 1000, l'essentiel de l'ameublement pour le rangement sous clé semble constitué par les coffres. La présence de ces meubles sur le site est attestée par les 5 moraillons complets mis au jour.
Ce témoignage en filigrane de la présence de coffres dans l'ameublement vient conforter l'hypothèse d'un site de peuplement autre qu'un simple village. L'utilisation de serrures, destinées à verrouiller les accès et à protéger des objets, montre que certains espaces n'étaient pas accessibles à tous les membres de la communauté de Coltières.
Il y a donc fort à parier que les rapports entre les habitants étaient hiérarchisés et que certains disposaient d'avantages et de pouvoirs, leur garantissant un statut particulier.
Qu'elle soit en buis, en érable, en frêne ou en noisetier, toutes les cuillères retrouvées sur le site nous apprennent une chose, les habitants de Coltières étaient majoritairement droitiers.
Comment le sait-on ? Par l'observation attentive des cuillères, qui présentent des signes d'usure majoritairement sur leur bord gauche.
En tout, ce sont 242 cuillères qui ont été mises au jour. Cela en fait des convives, car chaque mangeur possède sa cuillère personnelle, à ne pas confondre bien sûr avec la cuillère des plats.
Les différentes formes de cuillères n'ont rien de décoratif. Chaque ustensile possède une forme adaptée à sa fonction. Ainsi, les plus longues cuillères sont les cuillères à sang. On trouve ensuite des cuillères à ragoût, des cuillères de table et enfin les plus petites destinées aux enfants.
Avec les couteaux, les cuillères constituent les seuls couverts utilisés alors. Eh oui, la fourchette est une invention bien plus tardive, utilisée à partir de la fin du XVIe siècle.
Les repas se prennent autour de grandes tables posées sur des tréteaux, près du foyer domestique. Cela garantit aux convives chaleur et bien sûr, service rapide.
Pour s'asseoir, on utilise des bancs et en guise de poubelle, le sol alentour sur lequel viennent se servir les animaux passant à proximité.
Cultivateurs et artisans, les hommes vivant à Coltières possèdent une autre corde à leur arc. Ce sont en effet des cavaliers qui sont capables de livrer combat grâce à un armement développé.
Autour de l'an 1000, posséder un cheval n'a rien d'anodin. C'est pourquoi, à Coltières, une aire de ferrage des chevaux se situe non loin de la maison principale, occupée par la famille dominante.
À cette période, le cheval est avant tout utilisé pour guerroyer. Et cela tombe bien, car l'arsenal retrouvé sur le site est considérable. On y trouve majoritairement des armes offensives, comme les lances de cavalerie, les haches d'armes, les épées ou encore les javelots. Plus rares sont les équipements défensifs. Seules des plaques recouvrant des vêtements en cuir épais, les broignes, ont été mises au jour.
Le statut des habitants de Coltières est donc ambivalent. Ils ne sont ni tout à fait paysans, ni tout à fait chevaliers. Pourtant, l'arbalète présentée de l'autre côté de l'îlot, typique du XIe siècle, est un accessoire rare.
Deux sortes d'arbalètes ont été mises au jour. Si la grande possède un système de détente dit « annois », déjà connu grâce aux fouilles de sites contemporains, la plus petite est un « unicum », c'est-à-dire un exemplaire unique.
Cela est dû à sa détente, qui n'est pas en os ou en bois de cervidé, mais en bois végétal, un matériau ici exceptionnellement conservé grâce à son enfouissement en milieu lacustre.
Ses dimensions modestes semblent peu adaptées pour la guerre. Il est en revanche plus probable qu'elle ait été utilisée pour la chasse ou l'entraînement des jeunes garçons.
Les habitants de Coltières produisent et possèdent tout le matériel du parfait cavalier, comme en attestent les nombreux éperons retrouvés sur le site, mais aussi les pommeaux, dosserets et bandes de selle, les sous-ventrières et les licols, les brides, les mors ou encore les fers à cheval.
Mais si ces accessoires sont avant tout utilitaires, d'autres pièces plus ornementales ont également été mises au jour, à l'image des cocardes qui vous sont présentées ici.
Réalisées à l'aide de la technique des émaux cloisonnés, ces cocardes sont constituées de plaques d'émail qui viennent recouvrir un support en laiton ou en cuivre. Leur jeu de couleurs ne laisse nul doute planer quant à leur destination. Elles servaient en effet à embellir le harnais de tête du cheval.
À ces cocardes s'ajoutent d'autres éléments purement décoratifs, comme les pendants articulés et les pendants fixés à l'extrémité d'une lanière. Tous ces accessoires soulignent le prestige du cavalier sur sa monture.
Les habitants de Coltières ne sont installés que depuis une quinzaine d'années, lorsque les premières inondations ont lieu. En effet, dès 1020-1025, le niveau des eaux du lac monte plusieurs fois.
Signe de ces désagréments, la palissade côté berge est alors renforcée. La maison plus proche du rivage, c'est-à-dire le bâtiment 2, est quant à elle déplacée.
Ces précautions ne peuvent empêcher l'inéluctable. Le niveau lacustre continue de monter, si bien que les habitants doivent se résigner à quitter les lieux.
L'abandon du site a lieu entre 1038 et 1040. On démonte alors les bâtiments de manière systématique et l'on n'oublie pas d'emporter avec soi les objets ou les éléments de mobilier les plus précieux.
C'est le cas des instruments agricoles, des meubles et des coffres. La petite vaisselle, utilisée durant la période d'occupation du site, est en revanche laissée sur place ou bien perdue lors du déménagement, puis recouverte par les eaux.
Il est difficile de déterminer où se sont rendus alors les hommes et les femmes qui vivaient là. Peut-être se sont-ils dirigés vers l'une des nombreuses mottes castrales des environs, premier symbole du système féodal naissant.
En effet, au milieu du XIe siècle, plusieurs de ces châteaux primitifs, dotés d'un fossé, d'un rempart et d'une maison seigneuriale, sont édifiés non loin du lac.
Cette histoire locale demeure cependant difficile à démêler, faute d'archives textuelles ou de fouilles archéologiques. En effet, les sites de mottes sont datés moins finement, car ils ne présentent pas de restes de bois bien conservés, tels que ceux retrouvés sur les bords du lac.
C'est ici que votre visite des collections du musée s'achève. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. À bientôt.